Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, excellent réveil à tous. Enfin, je dis excellent réveil, j'espère que vous avez surtout réussi à dormir. Nous sommes le mercredi 24 juin et la canicule se poursuit encore aujourd'hui. 58 départements en vigilance rouge. La nuit a été terrible. Aujourd'hui, on pourrait encore battre des records de température. Nos organismes, ils commencent à souffrir et ça se voit dans les hôpitaux. C'est ce que nous dira le chef des urgences et du SAMU du CHU de Rennes. Il sera en direct avec nous à 7h40. Est-ce que vous le constatez? Est-ce que vous souffrez? Je vous attends évidemment au 3216 et sur le WhatsApp 0612 424 424. À 8h30, mon invité est au cœur de l'actualité avec sa proposition de congé climatique. Marine Tondelier, la patronne des écologistes, sera l'invitée du face-à-face. Elle dénonce des décennies d'inaction climatique et dans le même temps, ses adversaires lui disent « Oui, mais vous vous étiez opposé à la clim, vous vous étiez opposé à l'énergie nucléaire. » Toutes ces questions, je les pose donc à Marine Tondelier. Rendez-vous à 8h30 sur RMC et BFM TV. Puis ce matin, on continue à vous faire gagner votre prime de match, 30 000 euros, auquel on rajoute, vous le savez, 500 euros par but marqué à chaque match pendant la Coupe du Monde. Et au moment où l'on se parle, eh bien, il y a 40 000 euros dans la cagnotte. 40 000 euros de prime de match. Ces 40 000 euros, ils sont pour vous si vous vous inscrivez et que vous êtes tiré au sort. Attention, il y aura une alerte ici même d'ici 9 h. Restez bien attentifs. Il est 6h59 dans un instant, le journal. Mais tout de suite, la météo. Géraldine est en ville, les journées les plus chaudes depuis les relevés météo.
Ouais, c'était hier la journée la plus chaude, mais le record ne devrait pas tenir très longtemps. Il devrait être battu encore aujourd'hui. Avec 58 départements en vigilance rouge canicule, les Hauts-de-France notamment sont passés du côté rouge. 31 autres départements en vigilance orange. Et puis les 7 derniers en vigilance jaune. Donc tout le pays est concerné par cette canicule avec à nouveau des records absolus cette nuit qui sont tombés en Charente, dans le Gers, dans les Deux-Sèvres également. Cet après-midi, ponctuellement, pour atteindre les 43 degrés dans le Poitou, dans le centre-val de Loire. Il fera 42 degrés à Bordeaux, Rennes, 41 à Nantes, à La Rochelle, 40 à Paris ou à Bourges, 39 à Brest, Lyon, Clermont-Ferrand, 37 à Lille, Grenoble, 36 à Marseille. Et attention, c'est pas terminé puisque c'est la nuit prochaine qui sera la plus difficile, la plus chaude de l'épisode avec des températures qui ne descendront parfois pas sous les 28 degrés.
Il est 7h. Merci d'avoir choisi RMC. Excellent réveil à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La canicule qui met les urgences sous tension, le gouvernement active le plan Orsan pour renforcer les moyens dans les hôpitaux. De nouveaux records pourraient être battus aujourd'hui. On a vécu hier la journée la plus chaude depuis 1947. La nuit aussi, 21,6 degrés en moyenne sur le territoire. Jamais de telles températures n'avaient été enregistrées. Difficile dans ces conditions de trouver le sommeil, au point que certains décident de passer la nuit dehors. Et Didier Deschamps, qui ne sera pas sur le banc des Bleus vendredi face à la Norvège, endeuillée par la mort de sa mère.
68 000 foyers toujours privés d'électricité ce matin dans le Finistère.
Et c'est la conséquence de ces fortes chaleurs, à l'origine aussi d'une panne à l'hôpital de Beauvais où il était impossible d'accoucher. Hier, la maternité a dû fermer ses portes. Des hôpitaux déjà sous tension face aux fortes chaleurs. Les appels au SAMU se multiplient, jusqu'à 50% de plus en Île-de-France, souvent en lien avec la déshydratation. Le gouvernement a donc décidé d'activer le niveau 2 du plan Orsan, permettant notamment de mobiliser des personnels nécessaires au fonctionnement des hôpitaux. Comme à Bordeaux, on a frôlé les 42 degrés. Hier, ça pourrait être pire aujourd'hui et demain. L'hôpital de la ville se prépare, Marion Gauthier, à des jours encore bien difficiles.
Là, on est sur le secteur de la salle d'accueil des urgences vitales.
Les couloirs sont encore calmes. Le docteur Thomas Meignet dirige le pôle des urgences.
On a en revanche, depuis hier, des personnes âgées qui commencent à arriver parce que souffrant de la chaleur. On a les effectifs médicaux et paramédicaux qu'il faut pour prendre en charge tous ces patients.
Mais l'agitation gagne le premier étage.
D'accord, elle est désorientée, c'est ça?
Le centre de régulation bruisse.
D'accord.
Plus 25% d'appels au 15 depuis lundi. Le directeur général du CHU prévient le maire de Bordeaux.
Avec cellule de crise tous les jours.
C'est là où c'est vrai, vous êtes vigilant sur la disponibilité des personnels. Est-ce que demain
des personnels,
c'est des renforts?
Des lits, la plus 25% d'appels, c'est quand même un signal.
Oui, le plus dur est à venir car la chaleur sur plusieurs jours épuise les organismes, confirme le directeur.
Les effets de la chaleur sont décalés. Et on peut s'attendre à la fin de la semaine à un risque d'afflux massif de victimes. Pour l'instant, les services et les hôpitaux du CHU ont tenu.
Et veille notamment à ce que la climatisation fonctionne dans ces bâtiments parfois vétustes.
Et l'autre conséquence de ces chaleurs, ce sont les incendies. 90 hectares ont brûlé dans le Lot-et-Garonne. L'incendie est désormais maîtrisé. On vous en parlait à 6h30. C'est ce que nous disent ce matin les pompiers. On a connu hier, je vous le disais, la journée la plus chaude de l'histoire en France depuis le début des relevés en 1947. Ça va se poursuivre. Il fait déjà 28 degrés ce matin. La Rochelle, 27 à Limoges, 26 à Nice. La France tourne au ralenti. La faute à des nuits épuisantes. Difficile de trouver le sommeil. Alors certains ont décidé de passer la nuit à la Belle Étoile. C'est le cas dans le parc des Buttes. De Chaumont, à Paris, où l'on retrouve ce matin en direct Cassandre Brault pour RMC.
Oui, ici, beaucoup ont préféré passer la nuit sur l'herbe dans le parc, au frais, plutôt que de rester enfermé chez eux, dans la chaleur. Joseph, lui, a 19 ans, il est étudiant et il est arrivé vers 23h hier soir.
Il faisait plutôt bon, toujours un peu trop chaud à mon goût pour une nuit. On s'est pas mal baladé pour trouver un petit coin où on pouvait se poser. Et puis ensuite, moi j'ai bien dormi aussi un peu. On est arrivé pile au moment où l'herbe était mouillée. Ça permet de se rafraîchir un petit peu parce qu'il faisait encore chaud. Et ouais, moi je me suis posé et puis assez vite, en allongeant, en fermant l'œil, j'ai dormi, ouais.
Et ils sont plusieurs comme Joseph à avoir choisi de dormir cette nuit ici au but de Chaumont sur des bancs ou directement sur l'herbe. Anna et ses amis s'étaient préparés, ils étaient déjà venus hier, alors aujourd'hui ils avaient prévu un drap et de quoi être bien installés. On sent quand même que la nuit a été courte, les yeux sont cernés, gonflés. Certains dormeurs ne sont pas encore réveillés, mais d'autres ont déjà levé le camp. Ils rentrent terminer leur nuit ou partent commencer leur journée.
Cassandre Brault, en direct du parc des Buttes de Chaumont à Paris ce matin.
Et puis cette chaleur accablante, elle oblige les lieux touristiques à revoir leurs horaires.
La Tour Eiffel, le Louvre, même le Mont Saint-Michel vont fermer plus tôt aujourd'hui. Adaptation aussi dans certains secteurs d'activité comme le BTP, chantier interdit l'après-midi dans 4 préfectures. D'autres aimeraient pouvoir en bénéficier. C'est le cas des salariés de l'usine Stellantis à Mulhouse qui dénoncent des conditions de travail dégradées. La procédure chaleur permettant d'obtenir un peu plus de pause et 1,5 litre d'eau par jour. Ne suffit pas à Salah Kelumti, il est délégué CGT de l'usine qui a prévu un préavis de grève déposé jusqu'à dimanche.
Alors nous, ce qu'on demande, c'est baisser les cadences, baisser la vitesse, y compris, pourquoi pas, chômer en étant payé à 100% à la maison, qu'on ait des pauses toute la journée, qu'on puisse avoir de l'eau accessible toutes les heures. Quand vous travaillez à côté d'un cours à plus de 40 degrés, vous savez, une bouteille, ça suffit pas. Ce matin, dans l'usine, il y a un cariste qui a eu un malaise. Quand on prend une bouteille, quand on l'ouvre et quand on boit, c'est laisser passer une voiture, c'est prendre du retard. Les cadences sont tellement dingues, c'est un enfer habituellement. Et actuellement, avec la chaleur, bah, c'est pire.
La chaleur qui bénéficie à l'inverse aux centres commerciaux qui peuvent se frotter les mains en ce premier jour de solde. Il débute aujourd'hui et se prolongeront jusqu'au 21 juillet. Occasion pour certains d'adapter sa garde-robe aux fortes chaleurs et pour ceux qui préfèrent acheter en ligne sur les plateformes asiatiques. Il y aura bientôt de nouvelles règles et des prix sûrement revus à la hausse. C'est en tout cas l'idée de la proposition de loi fast fashion soumise au vote des députés aujourd'hui. Mais après 2 ans de discussion, certains élus doutent, Romain Cluzel, de l'efficacité du texte.
Oui, ce texte vise à créer un malus pour les grandes plateformes du type Shein ou Temu, ce qui pourrait représenter jusqu'à 50% du prix de chaque pièce, jusqu'à 10 euros par vêtement. L'exécutif y voit une manière de protéger les commerces français, mais les socialistes comptent s'abstenir sur ce texte et dénoncent une coquille vide comme plusieurs organisations dont Emmaüs, en cause notamment la manière de définir dans la loi ces grandes plateformes asiatiques. Cette définition s'est complexifiée au fil des discussions et 2 critères ont finalement été retenus. Le volume de vêtements mis sur le marché et la réparabilité des produits. Un député qui soutient pourtant le texte craint donc que Shein et Temu trouvent la parade pour ne plus entrer dans ces définitions et passent entre les mailles du filet.
Une loi intégrale pour l'automne, promesse de Sébastien Lecornu après l'affaire Liana, symbole de trop nombreux dysfonctionnements. Le Premier ministre se saisit de la proposition de loi intégrale contre les violences faites aux femmes et aux enfants proposée l'an dernier par 100 de parlementaires de tous bords. RMC 7h07, Didier Deschamps a quitté ses joueurs pour quelques jours.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Le sélectionneur est rentré en France pour assister aux obsèques de sa mère dont il a appris le décès hier. Jean-Louis Tour, vous êtes à Boston en direct ce matin pour RMC. C'est donc sans Didier Deschamps que les Bleus joueront leur prochain match vendredi face à la Norvège.
camp de base de Boston hier en fin de matinée après avoir pris brièvement la parole devant son groupe, moment d'émotion selon les informations d'RMC Sport, avec des joueurs touchés, certains avec les yeux humides en face du sélectionneur. Deschamps qui a encouragé son équipe à continuer sur la lancée des deux victoires contre le Sénégal et l'Irak, et ce même sans lui. Ils ont assuré les joueurs en interne qu'ils voulaient battre la Norvège pour ainsi lui rendre hommage. Une minute de silence a ensuite été respectée avant la séance de l'après-midi, une opposition pour les remplaçants contre des jeunes du club américain des New England Revolution, sous la direction de Guy Stéphan, l'adjoint historique de Didier Deschamps, présent à ses côtés depuis 17 ans, va assurer l'intérim avec un nouvel entraînement aujourd'hui à 21h30 pour vous en France, puis la conférence de presse de veille de match demain et la rencontre face à la Norvège sur le banc de touche avant un retour du sélectionneur le lendemain, le samedi. Pour Stéphan, ce sera sa deuxième expérience de la sorte après un match contre le Danemark en 2022, lorsque déjà à l'époque Didier Deschamps était endeuillé.
Jean-Louis Tour, en direct de Boston ce matin pour RMC France-Norvège. Ce sera vendredi soir sur RMC 21h. Dernier match de poule pour les Bleus. La troisième journée débute ce soir après la qualification cette nuit de la Colombie, tombeur de la République démocratique du Congo 1-0. À noter que le Portugal a retrouvé des couleurs grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo face à l'Ouzbékistan 5-0. L'Angleterre a buté sur le Ghana 0-0. La Croatie éliminait le Panama, battu 1-0.
C'était le journal de Thibaut Texer, 7h09 sur RMC.
Oh, hey ladies, what's up? Oh, no English? Wow. But anyway, I'm gonna let you guys enjoy your white
Ce que
wine.
Vous entendez là, c'est un influenceur. Il s'appelle Clavicular, influenceur masculiniste américain qui était de passage à Paris la semaine dernière. Il est suivi par plus d'un million de followers et il s'est fait remarquer en draguant, sans beaucoup de succès, des Françaises dans la rue. Bonjour Laurence Rossignol.
Bonjour.
Vous êtes sénatrice socialiste, vous êtes à l'initiative de ce rapport sur le mouvement qui prône la domination des hommes sur les femmes. Rapport que RMC vous dévoile ce matin en exclusivité. Pour vous, il faut traiter ce phénomène, c'est une radicalisation. Il faut le traiter comme on a traité l'islamisme radical. C'est votre parti pris et on en analyse évidemment les contours dans un instant. N'hésitez pas à réagir au 32-16, 7h09.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 et vous êtes bien sûr RMC et RMC Story. C'est un phénomène en pleine explosion, notamment chez les hommes jeunes, le masculinisme. Nouveau danger pour la société, d'après vous, Laurence Rossignol, et d'après votre rapport. Il est extrêmement complet. Bonjour, vous êtes sénatrice socialiste. Vous êtes à l'origine de ce rapport, donc sur ce mouvement qui prône la domination des hommes sur les femmes. Rapport qu'RMC vous dévoile ce matin en exclusivité. Votre parti pris ce matin, c'est qu'il faut traiter cela comme une nouvelle forme de radicalisation, comme on a traité la question de l'islamisme radical. Ça veut dire d'abord de quoi on parle. Le masculinisme, c'est quoi ?
Alors, c'est à la fois un mouvement de société, un mouvement politique, politique au sens où ça promeut une certaine vision des rapports entre les individus. Cette vision, c'est celle de la hiérarchie des sexes, de la domination des hommes sur les femmes, de la soumission des femmes. Ça promeut tout un tas d'idées et de représentations très dégradantes et très péjoratives sur les femmes. Mais ça s'infiltre dans la vie des garçons et des hommes par des conseils de développement personnel. C'est-à-dire, c'est comment être un vrai homme. En fait, ça exploite en partie la misère humaine, où on parle le mal-être, les crises d'adolescence, la solitude. Et en gros, ça donne une explication assez simple. T'as pas de copine, ça va pas bien avec les filles, eh bien c'est parce que les féministes ont totalement perverti les femmes et que maintenant les femmes ne veulent plus des hommes. Donc si tu veux récupérer ton potentiel de séduction, il y a toute une série de conseils. Et c'est un truc très violent. C'est violent d'abord pour, comme projet politique, c'est violent parce que ça mène parfois jusqu'au terrorisme, et c'est pour ça d'ailleurs que le parquet antiterroriste ou la DGSI s'intéressent aux masculinistes. C'est violent parce que ça produit des injonctions aux femmes, et il y a des mères ou des sœurs ou des filles qui se retrouvent subitement avec un gamin qui leur dit bah non, moi je débarrasse pas la table, c'est pas une tâche d'homme, c'est une tâche de fille, demande à ma sœur. Voilà. Alors que les enfants ont pas été élevés comme ça. C'est violent aussi à l'égard des garçons eux-mêmes, puisque un certain nombre de masculinistes d'abord proposent beaucoup de produits. C'est un gros business. Des stéroïdes, des protéines. Si tu veux être un homme fort, faut que tu sois musclé. Et comme pour être musclé, il faut prendre des produits pour te muscler, donc c'est toxique. Et puis ça va même jusqu'à, vous avez évoqué tout à l'heure, Clavicular, jusqu'à se donner des coups de marteau sur la mâchoire, parce que un homme fort, un homme qui séduit, c'est un homme qui a les mâchoires carrées.
Alors, c'est ce que dit effectivement Clavicular, on l'entendait tout à l'heure, c'est un influenceur américain masculiniste qui s'est donc filmé ce week-end en draguant des filles dans les rues de Paris. Il a d'ailleurs fait face à un certain nombre d'échecs. Il explique, un, que bah, si elles n'ont pas accepté qu'il les drague, c'est que sans doute elles sont lesbiennes. Et deux, son business, comme vous dites, c'est non seulement des produits, mais c'est aussi de se montrer avec un marteau où il s'auto-casse la mâchoire pour que cela élargisse sa mâchoire et lui donne donc une physionomie qui serait plus raccord avec l'idée du masculiniste, grosse mâchoire en avant.
Oui, parce que chez les masculinistes, il y a toute une série de légendes, de fantasmes qui circulent sur les critères qui sont nécessaires pour séduire les filles. Et entre autres, ils ont identifié pour certains d'entre eux qu'il faut avoir une mâchoire carrée. Les femmes craqueraient devant les mâchoires carrées. Donc, ils disent à des gamins de se donner des coups de marteau dans la mâchoire pour changer la forme de leur visage. Donc, c'est un ensemble qui est très violent. C'est pour ça que, du point de vue du Sénat, nous, on s'est intéressé à ce sujet, d'abord pour faire un état des lieux, avec la délégation aux droits des femmes. Un état des lieux, qu'est-ce que c'est que ce mouvement? On est allé jusqu'au Québec, puisque c'est là où a eu lieu le premier attentat masculiniste en 79 à l'école polytechnique. Et hier, encore au Québec, un attentat a eu lieu, commis par un homme qui se référait à toutes les personnalités et tous les écrits masculinistes.
Et je précise qu'en France, un attentat terroriste masculiniste imminent a été déjoué par la DGSI. C'était en juillet 2025 à Saint-Étienne. Des dizaines d'individus sont aujourd'hui suivis pour masculinisme radical par les services de renseignement. Le danger, comme vous le dites, est donc extrêmement concret. Les plateformes d'un côté, l'ultra-droite de l'autre, quelles sont le rôle de l'un et de l'autre? Les plateformes d'abord et la question des algorithmes.
Ce qu'on a observé, c'est que depuis la deuxième élection de Trump, depuis que la Silicon Valley s'est ralliée politiquement à Trump et à un projet en gros illibéral d'affrontement avec la démocratie, tous ces contenus masculinistes, parce que c'est quand même une affaire qui est essentiellement numérique au départ. C'est la différence avec les mouvements antiféministes qu'on a connus précédemment. Tout ça se développe sur le numérique. Et ces plateformes poussent ces contenus masculinistes alors qu'on pouvait avant leur reprocher de ne pas les réguler, maintenant on est au-delà de la question de la régulation, c'est un choix politique. Et ce que nous ont dit des chercheurs en Amérique du Nord, c'est que en fait, le masculinisme, c'est le cheval de Troie d'une attaque plus globale contre la démocratie. Parce que quand un gamin met en gros une vingtaine de minutes avant d'être confronté avec un contenu masculiniste.
C'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes où il est inscrit sur TikTok, en gros, ou TikTok ou autre,
TikTok, Meta,
il va être abreuvé de masculinisme.
Et donc, les algorithmes sont fabriqués pour ça, créés pour ça, programmés pour ça. Voilà, les algorithmes sont programmés pour exposer les gamins. Et après, de contenu masculiniste en contenu antisémite, raciste, anti-LGBT, transphobe, anti-genre, ça va très très vite. Donc c'est un ensemble, en fait c'est un ensemble suprémaciste, c'est la promotion de l'homme blanc et d'une société dans laquelle il y a une inégalité naturelle entre les êtres humains, selon les races et selon les sexes.
Que demandez-vous aujourd'hui? Comment lutter?
Alors, ce que j'observe, c'est côté DGSI et antiterrorisme, il y a une prise en compte sérieuse du problème. En revanche, il faut que l'ensemble des ministères, ensemble des politiques publiques, prennent en compte l'éducation nationale. Il vient aussi, il y a déjà une prise de conscience. Mais il faut qu'il y ait une mobilisation de notre société. Aussi bien vous, moi, les gens qui nous écoutent, pour repérer ça, il faut aider les familles à repérer les signaux faibles, ce qu'on avait appris justement avec la radicalisation djihadiste. Repérer les signaux faibles, il faut savoir à qui s'adresser quand on les repère. Donc, on demande un plan interministériel et il faut que tous les ministères se mettent là-dedans. Et puis, je demande aussi aux responsables politiques de faire attention à ce qu'ils disent et à la manière dont ils se comportent. Eh bien, en fait, je pense qu'on est tous, et en particulier les hommes, un peu responsables. Tous les discours qui disent, par exemple, les féministes, ça suffit, les droits des femmes, c'est bon, elles ont déjà eu tout ce qu'elles voulaient, qu'est-ce qu'elles veulent en plus et qu'est-ce qu'elles veulent encore, qu'on entend aussi chez des responsables politiques, ce discours-là, c'est un des fondements du discours masculiniste. C'est-à-dire, maintenant, ça suffit, les revendications des femmes, ça suffit de nous déstabiliser.
Mais en même temps, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire il ne faut pas non plus ne plus pouvoir dire lorsque l'on trouve qu'il y a des excès. Comment on fait pour trouver l'équilibre et la nuance?
Oui, mais vous savez, en fin de compte, les excès, quand on regarde bien, ils sont du côté de la domination masculine, des violences contre les femmes et les enfants, beaucoup plus que du côté des féministes. Il n'y a pas de féministes qui tuent, alors qu'il y a des machos et des masculinistes qui tuent.
Merci Laurence Rossignol d'être venue répondre à nos questions ce matin, sénatrice socialiste, et vous remettez donc ce rapport du Sénat. Aujourd'hui même, il est 7h20, et Arthur Chevalier vient de rentrer dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
L'historien d'Apolline Matin. Arthur, avec ses chaleurs, tout le monde ne pense qu'à un objet, la climatisation. Ça vient d'où la clim?
Eh bien, ça vient des États-Unis, un des pays les plus climatisés du monde. Et figurez-vous que la toute première clim fonctionnait sans électricité, Apolline.
Vous nous le dites dans un instant. Arnaud Demanche arrive aussi pour pirater le face-à-face. Et tiens, mon invité répondra aussi à cette question de son rapport à la clim. C'est la patronne des écologistes, Marine Tondelier. Ne bougez pas, on se retrouve dans 50 secondes, 7h21 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
7h22, vous êtes bien sur RMC. Enfin, vous êtes bien, vous avez chaud. Et justement, on parle clim ce matin avec notre historien Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
58 départements en vigilance rouge, canicule. On vient de vivre la nuit la plus chaude de notre histoire. La plupart des points de vente de climatisation sont en rupture.
Eh oui, la climatisation, c'est le sujet numéro un. D'après l'Agence internationale de l'énergie, le recours à la clim en Europe pourrait tripler d'ici 2050. C'est évidemment un effet du réchauffement climatique. Et aujourd'hui, les plus grands consommateurs de climatisation en Europe, ce sont les Italiens. Suivi par les Grecs, les Français sont en troisième position.
La climatisation, c'est une invention en réalité très ancienne.
Et oui, c'est hyper ancien, ça arrive même 50 ans avant la généralisation de l'électricité. La première clim, ça date de 1842 et son inventeur, c'est un médecin américain qui s'appelait John Gorey. Il exerçait en Floride, donc au sud-est des États-Unis, une région à la fois très chaude et marécageuse. Et à cette époque, il y avait une maladie qui ravageait la population là-bas. Cette maladie, c'est la malaria. C'est une maladie mortelle transmise par des moustiques qui vous donne une fièvre énorme.
C'est justement pour soigner cette maladie qu'il imagine la première clim, première climatisation.
Exactement, Apolline, parce que ce John Gorey, en fait, il était convaincu que c'était la chaleur qui rendait les gens malades. Donc, il fallait un système pour rafraîchir l'air. Il invente donc une première sorte de clim. Alors voilà en quoi ça consistait. En gros, on ventilait de l'air sur un bloc de glace et hop, ça vous faisait de l'air froid. Mais alors le problème dans cette histoire, c'était les blocs de glace, hein, parce qu'il fallait les faire venir d'endroits beaucoup plus froids. Il fallait les conserver, ça coûtait une fortune. Donc le système était ingénieux, mais compliqué.
Est-ce qu'il a réussi à imaginer un nouveau système, un meilleur?
Eh oui, il se remet au travail et là, il invente un appareil capable de condenser l'air tout en créant de la glace. Tout ça grâce à la puissance d'un moteur à vapeur. Et à la fin, effectivement, ça faisait de l'air froid. Alors même s'il arrive à faire breveter son invention en 1848, toute la presse s'est moquée de lui en le traitant de cinglé. Son système ne va pas du tout trouver preneur. Il va mourir dans l'anonymat. Mais l'inventeur de la clim, c'est lui.
Quand est-ce que la climatisation trouve vraiment son public?
Alors au tout début du XXe siècle, c'est un ingénieur américain qui invente ça. Il s'appelait Willis Carrier. Il met au point un système d'air conditionné, mais qui cette fois effectivement fonctionnait à l'électricité. Beaucoup plus pratique. Et les premiers à s'équiper de la clim aux États-Unis, ce sont les cinémas, figurez-vous. Ça va même être à l'origine d'une campagne de publicité très originale et qui est restée légendaire. Tous les cinémas affichaient des posters avec des ours polaires devant chez eux pendant l'été. C'était évidemment pour faire comprendre que dans leur salle, eh bien, vous pouviez échapper à la chaleur. La clim va ensuite se généraliser. Et figurez-vous qu'à l'époque, aux États-Unis, il y avait déjà des ruptures de stock, Apolline.
Merci Arthur. Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Il est 7h24. Arnaud Demanche est avec nous.
RMC.
Demanche pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud. À 8h30 tout à l'heure, je reçois justement la patronne des écologistes, Marine Tondelier.
C'est parti, tout le monde à chaud. Ah, c'est le rock'n'roll. Hein, Mathieu, ça vous rappelle le Hellfest?
Exactement.
Comme tout ça. À fait. C'est vraiment la même tendance.
Apolline, les amis, oui, c'est encore la canicule. Il faudrait vraiment un décaniculage là. On n'en peut plus. Et Marine Tondelier a justement une proposition. Le congé climatique, c'est 5 jours de congé payé en cas de forte chaleur. Là, on est à 6 jours de forte chaleur et on n'a même pas commencé juillet-août. Est-ce que 5 jours, c'est bien suffisant en fait? Comment on va faire quand on aura 3 mois de canicule non-stop en 2028? Eh ben, je propose, je propose un truc. Inverser cette loi, on va faire 5 jours de travail par an. Ça, c'est bien.
Mais voilà.
Ils le testent à France Télé depuis des années et ça marche. C'est une proposition qui a rendu fous les boomers à la retraite, en tout cas, qui nous ont tous dit « Mais vous êtes en sucre. En 82, on a eu une canicule. On a travaillé quand même. Le thermomètre a grimpé jusqu'à 26 degrés en juin. Mais c'était énorme pour l'époque. Faites pas cette tête-là. Eh ben, avec ta mère, ça nous arrêtait pas. On prenait la Jeep. On faisait le plein de diesel et on allait bosser à la préfecture. Moi, j'ai travaillé pendant les 3 mois de canicule. C'est comme ça que j'ai pu la payer, la croisière autour du monde sur le gros bateau Costa. Ouais, mais nous, il fait 40. Oh, ouais.
Ça va,
bravo,
quoi.
Bravo avec le réchauffement climatique, les jeunes. De mon temps, il n'y en avait pas.
Voilà.
Il n'y en avait pas. Pour avoir chaud, il fallait prendre l'avion. C'est pour ça qu'on l'a autant pris, nous. Sinon, on gelait. Alors hier, Valérie Pécresse a recommandé le télétravail pour éviter que les gens prennent les transports. Parce que, je cite, « les rails ne supportent pas une chaleur de plus de 50 degrés ». Chers voyageurs, dès que le soleil sera passé derrière la rangée de platanes, notre train pourra redémarrer parce que les rails, ça craint le soleil, la neige, les feuilles mortes, c'est super fragile les rails.
Oui.
Pourquoi on fait pas ça en acier? Pourquoi on fait pas ça dans
c'est
un matériau solide?
C'est malin ça.
Je propose, hein, après vous faites ce que vous voulez. Alors l'autre solution, ce serait de décaler les horaires de travail, par exemple la nuit. Tenez, nous, 5 jours par an, on pourrait faire ça. La matinale de 7 à 9, mais le soir. On aurait une vie normale pendant 5 jours de l'année. On découvrirait des trucs. Ah bon? On peut régler nos réveils à 8 heures du matin? On peut faire ça?
Wow.
Comment? Ils passent des films le soir à la télé?
Ça, il paraît, c'est dingue.
Mais j'ai des enfants. Oh mon Dieu, je suis passé à côté de tellement de choses à force de dormir toute la journée. Mathieu, si ça se trouve, vous avez 6 gamins et vous ne le savez même pas. Arthur, il y a peut-être une femme qui vit chez vous derrière la pile de livres historiques.
Ouais, peut-être, jamais regardé.
Apo, le saviez-vous? Mais il y a 5 personnes qui dînent ensemble tous les soirs chez vous. Allez, rendez-vous avec Marine Tondelier à 8h30.
Merci Arnaud, qu'on retrouve à 8h15, évidemment, comme chaque matin, pour notre plus grand bonheur. Il est 7h27, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Des EHPAD du Finistère sans électricité ce matin, tout comme 68 000 foyers du département. La chaleur a fait exploser un transformateur. Température record et historique qui font aussi littéralement fondre les routes. RMC est allé aux côtés des agents qui luttent pour les protéger. Et le réveil d'une légende, Cristiano Ronaldo critiqué, mais buteur hier pour devenir le premier à marquer dans 6 Coupes du Monde différentes.
Le réseau électrique ne tient plus face à la canicule.
4e jour consécutif sous vigilance rouge. Nouvelle journée record hier, la plus chaude jamais enregistrée. Et certains ne peuvent même plus brancher leur ventilateur. 68 000 foyers sont privés d'électricité dans le Finistère où on va frôler aujourd'hui les 40 degrés par endroit. Romain Houg, cette panne, elle a été causée, ce n'est pas la seule, et ça ne fait aucun doute, par la chaleur.
Oui, c'est un transformateur électrique qui a explosé près de Quimper, heureusement sans faire de victimes, mais provoquant l'évacuation d'un quartier. Et donc, cette panne massive dans le sud du département, le retour à la normale va prendre du temps. Les 68 000 foyers ne pourront pas être raccordés avant au moins la fin de journée pour des raisons techniques, prévient le gestionnaire du réseau. La priorité est donnée aux établissements de santé et aux sites sensibles. Les EHPAD vont se voir fournir des groupes électrogènes. Enedis avait prévenu en début de semaine que les fortes chaleurs risquaient bien d'entraîner des pannes, tout simplement parce que de nombreux câbles sont enterrés et quand il fait 40 degrés en surface, les températures montent à 80 degrés dans certaines installations souterraines, parfois très vieillissantes. Et ça n'a pas loupé, notamment du côté d'Aubagne. Hier soir, 1500 foyers privés d'électricité, 9000 dans le Vaucluse pour les mêmes raisons. Pire, à Beauvais, c'est le bloc opératoire de l'hôpital qui a été paralysé pendant plus de 24 heures. Il a fallu transférer ailleurs les patients devant se faire opérer en urgence. Les salles de naissance ont été temporairement fermées. Cette fois, ce sont les équipements de l'hôpital qui semblent avoir subi les conséquences de la chaleur, explique le groupe hospitalier.
Et les hôpitaux, justement, où le gouvernement a déclenché le niveau 2 sur 4 du plan Orsan hier, une manière d'anticiper un afflux de patients dans les prochains jours. Autre mesure de prévention, la fermeture précoce de certains sites touristiques. La Tour Eiffel, en tête, particulièrement inadaptée aux températures extrêmes, près de 30 degrés attendu encore aujourd'hui. Alors elle fermera complètement à 16h au lieu de minuit passé. Déception pour les visiteurs parfois venus de loin.
On est super déçus, on n'a pas dormi de la nuit tellement on était excités de visiter la Tour Eiffel. C'est la première fois que je viens à Paris et la prochaine, on viendra en hiver.
C'est assez compréhensible, s'il y a 50 personnes dans un ascenseur avec 37 degrés, c'est un peu risqué quand même.
Donc vous travaillez là-bas, c'est ça?
Oui, c'est ça, agent de sécurité.
Là, les conditions, comment vous les décririez?
Très dur.
C'est un four.
Il n'y a pas d'ombre. Là, on a très chaud. Après, même les malaises des gens, des touristes, ou même chez nous, c'est pas évident quoi, à vivre.
Fermer, c'est une bonne décision. Après, je ne sais pas si c'est les bonnes heures, parce que les grosses chaleurs, c'est entre midi et 16 heures, généralement.
Et vous irez peut-être chercher la fraîcheur dans les grands magasins. C'est le début des soldes d'été aujourd'hui. Encore faut-il pouvoir prendre la route, car certaines fondes deviennent impraticables. Des départementales sont fermées, par exemple en Loire-Atlantique et en Meurthe-et-Moselle. Pour éviter d'en arriver là, dans le Maine-et-Loire, Martin Lange, les agents passent en quelque sorte de la pommade.
Plus de 40 degrés dans l'air et plus de 60 degrés sur le bitume qui se ramollit et colle aux pneus. Christophe Devoile est directeur adjoint des routes départementales du Maine-et-Loire.
C'est comme un nid de poule qui s'étale, c'est-à-dire que les pneus ont embarqué le bitume et le gravillon de la route et ça crée des trous.
Dans le département, le ressuage, c'est le nom de ce phénomène, concerne 240 km de route. Pour le prévenir, ces équipes répandent un mélange d'eau et de chaux qu'on appelle le lait de chaux.
Comme si on avait fait couler du lait sur la route. Le blanc va permettre de réfléchir les rayons du soleil pour que la route monte moins vite en température. Et la chaux va permettre de redonner de l'adhérence au bitume.
Ça a un coût, ça, pour la collectivité ?
On parle de quelques milliers d'euros, là où refaire une chaussée coûte plusieurs centaines de milliers d'euros.
D'autant qu'aujourd'hui, il n'existe pas de revêtement miracle qui résiste à la fois au gel l'hiver et à la chaleur l'été. Il va donc falloir s'habituer à cet épandage, selon David Zambon. Il est directeur adjoint du CEREMA qui accompagne les collectivités face au changement climatique.
L'hiver, quand il y a du gel, on met du sel. Bah demain, quand il y a des canicules, on mettra du lait de chaud.
Comme plusieurs départements, le Maine-et-Loire a d'ailleurs investi dans son propre camion d'épandage l'été dernier.
Martin Lange pour RMC. Vague d'incendie également en France. L'un d'eux a été maîtrisé cette nuit sur la commune de Boussès dans le Lot-et-Garonne. Un autre toujours en cours près de Cholet. À chaque fois, près de 100 hectares ont été brûlés. D'autres départs de feu ont été enregistrés dans le Finistère et en Côte d'Or. Au total, 35 départements sont en vigilance orange incendie. Une alerte qui interroge chez Airbus. 16 avions A380 doivent être inspectés d'urgence, dont 5 avant tout prochain vol. C'est un ordre de l'Agence européenne de la sécurité aérienne qui dit avoir détecté des fissures sur les ailes d'un appareil similaire. Il est 7h35 sur RMC, on va prendre des nouvelles de nos bleus.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
L'équipe de France sans sélectionneur pour son prochain match vendredi. Didier Deschamps a quitté les États-Unis hier, endeuillé par la perte de sa mère. Les joueurs ont d'ailleurs observé une minute de silence à l'entraînement. Je vous donne les derniers résultats de ce mondial. La Colombie s'est qualifiée tôt ce matin pour les 16e de finale, avant même le dernier match de poule, grâce à sa victoire 1-0 contre la République démocratique du Congo. Victoire 1-0 de la Croatie contre le Panama et l'Angleterre a été accrochée, elle, 0-0 par le Ghana. Et puis Cristiano Ronaldo a tapé du poing sur la table hier. Un doublé pour une victoire 5-0 du Portugal contre l'Ouzbékistan. CR7 contesté après un premier match raté, mais qui devient donc le premier joueur à marquer dans 6 Coupes du Monde différentes, Arnaud Valadon.
Je suis de retour. C'est ce que Cristiano Ronaldo a voulu faire passer comme message au coup de sifflet final quand la caméra s'est braquée sur lui. Critiqué comme rarement après son premier match raté, la star a répondu sur le terrain et ensuite en interview.
Une semaine difficile. L'opinion a été très dure envers nous les joueurs, moi et l'entraîneur. Vous savez, quand les choses vont bien, Cristiano est génial. Mais quand ça va mal, Cristiano est un retraité. Il est vieux. Ça sera toujours comme ça.
Pour José Font, ancien défenseur lillois et coéquipier de CR7 en sélection, malgré les critiques, il reste le meilleur.
Aucun joueur comme lui, c'est la vérité. Dans la surface, il est létal. Il est le meilleur. Le mouvement, la finition, c'est du top.
Chasseur de records comme Messi, Cristiano est aussi devenu le deuxième joueur le plus âgé à marquer en Coupe du Monde à l'âge de 40 ans. Derrière le Camerounais Roger Milla, buteur à 41 ans.
Et aujourd'hui, c'est le début des troisième et dernier match de poule. 6 rencontres entre ce soir et dans la nuit, dont cette Écosse-Brésil et Maroc-Haïti. Ce sera à suivre sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde.
Et puis le Quintet, Cherbourg.
Départ 18h30, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le 15 JP de Crépin. Son outsider, le 17 Isis d'Airfray, le 15 et le 17.
C'était le journal de Victor Porcher. Il est 7h38 et c'est l'heure de jouer. Ce sont tous ces euros qui défilent et qui commencent à faire une très très belle prime de match. Parce que vous le savez, il y avait 30 000 euros au départ. On rajoute 500 euros à chaque but marqué. Et au moment où l'on se parle, eh bien la prime elle est de 40 000 euros. Il y a 40 000 euros, retenez bien cette somme. Elle est pour vous. Si quand on vous appelle, vous êtes capable de dire qu'il y a bien 40 000 euros dans cette prime de match. Ce montant, à tout moment, vous pouvez le gagner. Mais il faut vous inscrire. Vous envoyez but au 7-32-16, but au 7-32-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire. Il est 7h38. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
41 degrés à Cholet, à Rennes, au Mans, 42 à Nantes ou à Bordeaux. La France a connu hier la journée la plus chaude de son histoire et ça se voit dans nos hôpitaux. Bonjour professeur Louis Soula.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service des urgences et du SAMU du CHU de Rennes, en Bretagne. L'hôpital peut-il tenir? Je vous pose la question dans un instant et vos conseils, évidemment, à tous ceux qui nous écoutent. Et d'ailleurs, vous nous appelez, vous souffrez, racontez-nous et appelez-nous au 3216. On vous attend.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 et c'est déjà la fournaise et ça ne baisse pas la nuit. Conséquence, les hôpitaux sont très sollicités. Bonjour professeur Louis Soula.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service des urgences et du SAMU du CHU de Rennes en Bretagne et vous êtes aussi l'un des représentants du syndicat SAMU Urgences de France. La chaleur qui met plusieurs jours à affecter nos organismes, on est pile au moment où effectivement les conséquences des premiers jours de cette extrême chaleur commencent à se faire sentir. Est-ce que vous envoyez les effets à l'hôpital ?
Oui, tout à fait. On avait depuis le début de la canicule une augmentation des appels au SAMU de 30 à 40%. Et là, maintenant, ce sont les urgences qui augmentent en nombre de passages et surtout en nombre d'hospitalisations, en nombre de besoins d'hospitalisation. Et on est à 15-20% d'augmentation. Et on voit que les choses s'accélèrent depuis lundi, à tel point que le CHU de Rennes a déclenché le plan blanc pour anticiper cet afflux de patients, en parallèle aussi du déclenchement par le Premier ministre du dispositif Orsan et Piqué niveau 2.
Alors, quelle est la différence d'abord entre ces deux dispositifs ? On va y venir, mais quels sont les symptômes pour lesquels les gens vous appellent ou viennent aux urgences ?
Alors les symptômes, ils sont très différents. Si on compare à la canicule de 2003, on a beaucoup moins de coups de chaleur aigus, d'insolation, parce que les messages de prévention sont passés. Même si on en a encore, hier, on a pris en charge un patient qui avait roulé fenêtre ouverte sans clim sur une très longue durée avec une prise en charge avec une température à 45 degrés, ce qui est un vrai coup de chaleur et des brûlures cutanées. Donc, ce qui montre que il faut vraiment se protéger de l'exposition
au
soleil.
Même fenêtre ouverte, ça ne suffit pas.
Non, ça ne suffit pas. Hein. Dès lors qu'il fait 40 degrés, l'air n'est pas rafraîchi. Et donc, ça, c'est un cas qui reste assez exceptionnel dans cette période. On a principalement des prises en charge pour des malaises, des douleurs thoraciques, des sensations de paresthésie dans tout le corps, une grande fatigue, et puis on a des patients qui décompensent des pathologies, les patients les plus âgés, qui décompensent des pathologies du fait d'une perturbation du mode de fonctionnement des médicaments.
Ça veut dire quoi ça, cette décompensation dont vous parlez, en vérité ça veut dire quoi pour ceux qui nous écoutent?
C'est des patients qui sont déjà suivis pour des insuffisances respiratoires, pour des insuffisances cardiaques, pour des diabètes, des insuffisances rénales. Et donc, ces patients ont équilibrés grâce à des traitements. Par exemple, pour des patients qui ont des diurétiques, qui sont insuffisants cardiaques, eh bien, le manque d'hydratation va faire que le patient va éliminer beaucoup plus de liquide qu'il ne faudrait par un manque d'apport. Et donc, c'est pour ça, la sensation de soif est diminuée. Et ça vaut pour les patients âgés, mais il faut le rappeler aussi pour les patients, pour les petits, pour les enfants aussi, qui sont beaucoup moins sensibles à la sensation de soif.
Est-ce que vous avez les moyens de faire face? Alors d'abord à cette chaleur, parce que effectivement Rennes, on peut quand même le dire, sans vous offenser, que justement, ce n'est vraiment pas un endroit où on était habitué. On sait que depuis hier, à la fois la Bretagne et la Normandie aussi, c'est la première fois de l'histoire, sont en alerte rouge. Est-ce que vous avez les moyens de faire face?
Il y a plusieurs types de moyens qui sont nécessaires. C'est tout d'abord les ressources humaines, hein, soignantes et médico-soignantes, pour faire face à l'afflux d'appels au SAMU. Et c'est notamment la raison qui a dû conduire au déclenchement du plan Orsan. Après, c'est les capacités d'hospitalisation, en sachant que tous les hôpitaux, et notamment à Rennes, tous les services n'ont pas des chambres qui permettent une prise en charge avec un niveau de température adapté. Donc c'est la raison pour laquelle l'hôpital a déclenché le plan blanc sans être saturé à cette heure. L'idée maintenant est de recenser les chambres qui peuvent vraiment accueillir les patients avec des niveaux de température corrects, après avoir mis toutes les mesures de refroidissement qui sont accessibles, ventilateurs, clim et tout ça.
Ça veut dire quoi ça, professeur Louis Soula? Ça veut dire qu'à l'hôpital de Rennes, les chambres ne sont pas climatisées, les chambres dans lesquelles sont tous les patients, les malades?
Non, toutes les chambres ne sont pas climatisées. Il y a des chambres avec des airs rafraîchis, il y a des chambres de réanimation qui sont climatisées. Et il y a des bâtiments qui sont anciens. On a plusieurs sites sur le CHU de Rennes. Et le site, l'hôpital sud, qui a été construit dans les années 70, il n'est pas adapté pour ce genre de choses. Donc ce qui est fait, c'est la mise en place de matériel pour rafraîchir, ventilateurs, rafraîchisseurs d'air et climatisation. Mais c'est pas suffisant. Et donc ce matin, il a été décidé qu'il y aurait une inspection de tous les services pour vérifier le niveau de température dans les chambres.
Et vous en êtes à combien là? Vous avez regardé? Vous avez une idée?
Non, pas du tout. Personnellement,
vous avez pas
non.
Encore...
Nous, on sait qu'au niveau des urgences, on a un bâtiment qui supporte les poussées de température, qui a un air rafraîchi. Donc, même pour les patients sur brancard, c'est supportable. Et donc, c'est pour ça que ce recensement a été fait. Mais encore une fois, je pense que ces mesures-là, un déclenchement de plan blanc après quelques jours de canicule, c'est quelque chose qui n'était pas habituel lors des précédentes canicules, notamment celle de 2003. Donc,
il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Il y a des moyens qui tentent d'être donnés. Restez bien avec nous, professeur. Je voudrais également qu'on puisse donner la parole à Emmanuel, qui nous appelle des Côtes d'Armor et qui est infirmier libéral. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour Apolline, ça va?
Ben ça va, et vous, comment vous faites-vous? Parce que il y a deux aspects dans votre métier, j'allais dire. C'est-à-dire, il y a le côté infirmier, donc les malades ont besoin de vous, les patients ont besoin de vous, et en même temps, ça veut dire des déplacements dans cette extrême chaleur. Ça va? Est-ce que vous avez adapté votre tournée?
Alors, adapter la tournée, malheureusement, les soins, ils restent les mêmes à faire. Après, on essaye de donner les consignes d'usage justement aux patients pour qu'ils puissent hydrater régulièrement, on les fait boire à chaque passage. On est encore plus vigilant sur les malades justement à problèmes, comme le disait le professeur Soula, ceux qui ont déjà des problèmes connus au niveau cardiaque, respiratoire, mais aussi les patients qui sont diabétiques. On essaie justement de leur dire de bien faire attention, on surveille de plus près, on est vigilant. Et effectivement, je suis enfermé chez les pompiers, et puis nous on se voit bientôt à Pauline, on se voit mardi. Donc
parce que il y a Apolline chez vous. Alors là, c'est une petite parenthèse, mais effectivement, vous le savez, chaque année, je vais chez un certain nombre d'auditeurs. Mardi, je serai chez vous pour effectivement suivre votre tournée au plus près. Je sors des studios et je vais avec vous sur les routes au plus près des malades. Mais de fait, je reviens vers vous, professeur Soula. Ces inquiétudes, est-ce que vous anticipez que dans les jours qui viennent, ce soit plus dur encore? C'est-à-dire que est-ce que ce n'est que le début? Il y a combien de jours de décalage entre les moments d'extrême chaleur et le moment où le corps vraiment en ressent les effets?
Alors habituellement, c'est 3-4 jours, hein, et le maximum, ce sera 7 jours après d'exposition à ces fortes chaleurs. Donc on sait que le week-end risque d'être très sensible. Et nous, on a un peu peur des annonces de baisse de température qui vont lever un peu la pression. Mais là, je voulais reprendre un petit peu ce que disait le collègue infirmier. Il y a quelque chose qui est très différent par rapport à la canicule de 2003, c'est qu'on est très précoce au mois de juin. Et on a la chance que tous les aidants, les soignants, tout le monde est sur le pont. Contrairement au mois d'août 2003.
C'est pas le moment des congés, effectivement, voilà, où on est en sous-effectif.
Et donc, tout le monde est beaucoup plus vigilant pour les personnes les plus âgées, pour les plus vulnérables, et ça, c'est très important. Parce que patients vulnérables, il y a bien sûr des patients âgés qui sont à domicile, en zone rurale, isolés, mais il faut pas oublier toutes les personnes en précarité sociale, et c'est pour cela, il faut vraiment être très vigilant. Hein. À Rennes, il y a un foyer qui a été ouvert pour pouvoir accueillir ces personnes qui vont rester dehors jour et nuit, et qui risquent de décompenser encore plus du fait de leur précarité sociale.
Merci beaucoup, professeur Louis Soula, donc chef du service des urgences et du SAMU du CHU de Rennes en Bretagne. Et merci aussi à Emmanuel, infirmier dans les Côtes d'Armor. Emmanuel, j'arrive. Je serai là effectivement mardi dans la voiture de l'infirmier pour aller faire la tournée et voir au plus près ces tournées des infirmiers, effectivement au plus près des plus vulnérables. Il est 7h51. C'est mercredi et c'est le jour de la voix de droite. Louis Sarkozy, bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Dans un instant, on va parler retraite avec vous. Le débat sur la retraite par capitalisation est relancé en Allemagne.
Oui, bien sûr. Comme d'habitude, le monde avance. La France en parle. Écoutez, chers auditeurs, c'est très simple. Ceux qui sont contre la capitalisation sont contre votre enrichissement.
Vous nous dites dans un instant. Il est 7h51 sur RMC.
RMC,
Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite, mais d'abord le bonus. Mathieu, un peu de fraîcheur ce matin.
Et oui, si vous reconnaissez ce générique, Apolline, les pubs, les bandes annonces avant les films, c'est que vous êtes cinéphile ou à la recherche de la clim. La canicule semble booster les entrées en salle. Le film d'horreur à petit budget, Backrooms, dont vous entendez l'ambiance, a déjà rassemblé plus de 400 000 spectateurs en France en première semaine. Carton pour Toy Story 5 aussi. Dimanche soir, le nouveau Pixar rassemblait déjà plus de 780 000 spectateurs. Les dessins animés du début de l'été, ça va devenir la solution canicule des familles. Et aujourd'hui, ce sont les Mignons qui ressortent en salle.
Les Mignons sont de retour avec une pointe de mystère.
Baby.
Oh, Winfrey.
Pignata. Carbonara.
Des Mignons et des Monstres, ça sort aujourd'hui dans toutes les bonnes salles climatisées. Pour qui veut rafraîchir les enfants et faire la sieste en même temps, je parle pour moi. Bon augure pour les cinémas avec le deuxième volet de la Bataille de Gaulle qui sort vendredi, pile pour le lancement de la fête du cinéma, avec des places à 5 euros.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
C'est mercredi, c'est la voix de droite sur RMC, c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour.
L'Allemagne lance sa réforme des retraites et les mesures sont choc pour nous Français. Possible report de l'âge de la retraite à 70 ans à l'horizon 2090. Bon, on a un peu de temps. Capitalisation obligatoire. Le chancelier Merz a reçu hier les propositions d'experts. Il veut réformer vite. Est-ce qu'il faut suivre l'Allemagne?
Vous voulez savoir l'ironie de toute cette histoire? C'est Bismarck, en 1889, en Allemagne, qui a inventé notre système de répartition. Et aujourd'hui, l'Allemagne s'en sort et la France fait du Bismarck. C'est dire à quel point nous sommes en retard sur tout, encore une fois, comme toujours. Les Allemands réforment et nous, on se demande s'il faut climatiser les salles de classe à 47 degrés.
Bon, allez, concrètement, que propose la commission d'experts du chancelier allemand?
Alors, l'essentiel, une cotisation supplémentaire de 2% du salaire payé à part égale par les employeurs et les salariés. Et cet argent sera placé sur les marchés financiers de façon centralisée. Exactement le modèle suédois qui existe depuis à peu près 98. Objectif de rendement 3 à 5% par an. Au moins 30 milliards d'euros injectés chaque année sur les marchés. C'est massif et c'est très intelligent.
C'est concrètement, ça rapporte plus aux moins riches?
Et c'est le principe de la capitalisation. L'économiste Olivier Babot, d'ailleurs, qui plaide cette cause depuis 10 ans, a calculé qu'un smicard français qui aurait pu capitaliser ses cotisations retraite tout au long de sa carrière, aurait accumulé plusieurs centaines de milliers d'euros, jusqu'à 1 million, selon certaines hypothèses. 1 million pour un smicard, Apolline. Voilà ce que la France vole à ses ouvriers. Voilà ce que la gauche essaye d'empêcher à tous les foyers de France en difficulté, à toutes les mères qui peinent à nourrir leurs enfants, à tous les travailleurs qui n'arrivent plus à faire le plein, à tous les agriculteurs qui n'ont plus d'avenir, à tous ceux que frappe la précarité. Écoutez, retenez ceci, celui qui s'oppose à la capitalisation s'oppose à votre enrichissement.
Oui, mais attention, la gauche va dire que c'est financiariser les retraites. Et surtout, est-ce que ce n'est pas livrer les travailleurs au marché et au risque du marché?
Pendant 50 ans, la gauche nous a expliqué que les actionnaires se gavaient, que les marchés boursiers créaient des fortunes scandaleuses. Très bien, acceptons leur diagnostic. Alors qu'ils m'expliquent, si le capital est si lucratif, si les marchés s'enrichissent à ce point et enrichissent ceux qui les détiennent, pourquoi diable refuser que les pauvres aient accès aussi? Pourquoi réserver ça aux seuls riches? La capitalisation, c'est exactement ça, permettre aux ouvriers, aux smicards, aux employés d'avoir une part de ce gâteau que la gauche elle-même décrit comme énorme. Alors soit elle a menti pendant 50 ans sur les rendements du capital, soit elle a interdit aujourd'hui les pauvres d'y goûter.
2008,
il faut choisir.
2008, plus Sarkozy, la crise financière, Lehman Brothers, vous n'avez pas peur d'exposer les retraites des Français à ce risque qui a touché les Américains?
Alors critiquer la capitalisation à cause des crises financières, c'est exactement comme nier le réchauffement climatique parce qu'il fait froid aujourd'hui. C'est confondre la météo et le climat. Regardez les courbes. Le CAC 40 depuis sa création en 88, le S&P 500 depuis l'après-guerre, toutes montent. Avec des secousses, oui, 2008, 2020, mais sur un horizon de 40 ans de carrière, les marchés ont toujours rapporté. Le fonds public suédois, par défaut, l'AP7 a délivré, Apolline, 11% de rendement annuel moyen entre 2000 et 2025, en traversant la crise des subprimes et celle du Covid. 11% avec des frais de gestion, vous pouvez poser la question? 0,05%. Et qu'on ne vienne pas me dire que la Suède est un pays d'extrême droite ou un laboratoire ultralibéral.
C'est effectivement plutôt de gauche. Vous voulez donc une capitalisation à la française, là, maintenant, tout de suite?
C'est très simple, le système français va s'effondrer. La question n'est pas s'il faut le changer, elle est quand. Et plus on attend, plus la transition sera douloureuse. C'est mathématique, c'est physique, c'est en vérité très simple. Mais, c'est l'enjeu réel, la transition est complexe. On ne bascule pas un système qui sert aujourd'hui plus de 17 millions de personnes de pension du jour au lendemain. Ma proposition est simple, une capitalisation d'abord optionnelle, puis progressivement obligatoire pour les jeunes générations. Vous avez 60 ans, vous restez à 100% en répartition. Vous avez 25 ans, vous capitalisez. Vous avez 40 ans, vous êtes au milieu.
c'est cette gradation qui sauve à la fois les retraites d'aujourd'hui et celles des demain. La gauche, quant à elle, mais qu'on soit très clair, la gauche vous ment. Elle vous a menti sur le capital. Elle vous a menti sur le travail. Elle vous a menti sur la soi-disant égalité. Rien de ce qu'elle ne dit sur ce sujet n'a de sens. La gauche vous veut pauvre et elle vous veut dépendant. Vous, seriez... vous de dire que ça suffit.
Vous ne seriez pas de droite, Louis Sarkozy ?
Comment vous l'avez dit ?
C'était la voix de droite, Louis Sarkozy sur RMC. Il est 7h57, demain ce sera la voix de gauche à votre place, Cécile Duflo. Et dans un instant, c'est la météo et le journal. Et puis le coût pour chacun d'entre nous de ces catastrophes naturelles, le coût des assurances qui va exploser, c'est Manu Le Chip qui nous le dira juste après le journal. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.